discours, je dirais, dominant de la décroissance qui a un côté finalement assez idéologique et dogmatique, et où finalement la décroissance deviendrait un but en soi comme l'est la croissance. Or, à mon avis, ni l'un ni l'autre ne sont des buts en soi. En revanche, si on regarde ça sous l'angle tel que je tentais de le suggérer ce soir, en fait, la question, ce n'est pas la décroissance en absolu, c'est dans certains cas, pour certaines ressources, dans certains endroits, dans certaines filières, il va falloir que les flux de matière et d'énergie décroissent, alors que par ailleurs, il y en a d'autres qui peuvent augmenter. La question, ce n'est pas la décroissance au sens absolu. Donc, du coup, il faut devenir très spécifique. Il faut dire de quelle région on parle, dans quel écosystème on est. Si le Québec décide de doubler sa consommation d'eau les 20 prochaines années, a priori, ce n'est pas dramatique. Il faudra un peu d'énergie pour faire tout ça, mais enfin, voilà. Si les pays subsahariens décident de se lancer dans de l'industrie textile qui consomme beaucoup d'eau, non, si on, alors non, plutôt si on arrive à diminuer la consommation d'eau. Donc, je pense que si on est spécifique et qu'on contextualise, je pense que ça c'est un grand élément qui va venir. Si on introduit l'écologie dans l'économie, on ne sera plus dans une espèce d'espace abstrait qui n'est pas territorialisé. Donc ça va nécessiter qu'on re-territorialise les activités économiques, qu'on réindustrialise certains territoires, du reste, ça peut très bien vouloir dire ça, et surtout que la décroissance devient, c'est pas une espèce de dogme à atteindre en tant que tel, comme réaction à la croissance, mais où certains flux, oui, vont diminuer, mais d'autres vont augmenter, pourquoi pas. Donc on voit que c'est une attitude très différente de ce que j'appellerais le discours un peu dominant en ce moment en France, qui est beaucoup plus, je dirais, politique, idéologique et dogmatique. Quoi, c'était une réaction par rapport à cette...
Moi, j'avais une question à vous poser. Vous, justement, c'était par rapport à... C'est quoi le rapport de l'écologie industrielle avec la finance? Vous n'avez pas parlé de ça du tout. Bon, alors, c'est vrai qu'on n'est pas obligé toujours de parler de ça, même si maintenant, c'est le problème. Est-ce que ce n'est pas l'éléphant dans la room? Ou comment vous, vous articulez mentalement votre discours avec cette bouche financière
Il y a deux aspects. Il y a d'abord le fait que la finance, en tant qu'activité économique, consomme énormément de matière et d'énergie et est très polluant, pas l'oublier, indirectement. Vous savez que chaque fois que vous faites une requête sur Google...
Elle est diminuée dans sa nature.
Oui, tout à fait. Mais enfin, en tant qu'activité elle-même...
Elle a son empreinte.
Elle a son empreinte, mais qui est pas du tout négligeable. Mais évidemment, elle a beaucoup plus d'impact au deuxième ordre. C'est-à-dire, elle a deux grands impacts. D'une part, elle investit dans des activités qui ne sont pas forcément souhaitables. Donc, elle peut encourager des activités économiques qui elles-mêmes sont très polluantes. Et puis, d'autre part, la finance a justement cette tendance à créer un espace homogène qui n'est justement plus territorialisé. Alors, de ce point de vue-là, l'écologie industrielle, de facto, ce n'est pas un choix idéologique, mais de facto, elle s'oppose frontalement à cette manière de concevoir le capital comme quelque chose de totalement mobile qui peut aller n'importe où pourvu que ça soit rentable l'espace de quelques jours ou de quelques minutes. Donc il est bien clair que de ce point de vue-là, dès qu'on est dans une approche écologique industrielle, on va pas favoriser ça. On va même plutôt être dans une logique inverse, très nettement, puisqu'on va chercher au contraire à ramener les flux d'argent, à les recorréler avec de l'activité économique réelle. Voilà. Donc c'est clair qu'on est dans une approche très différente.
Et que pensez-vous des autres formes de valeur autres que la monnaie?
Moi, je trouve excessivement intéressant. Là, il y a un gisement d'innovation sociale qui est relativement peu valorisé, je dirais, dans les discours officiels sur l'innovation. Mais c'est tout à fait intéressant. Le souci que j'ai par rapport à beaucoup de ces systèmes d'échange locaux, de ces monnaies locales, etc., c'est quand même leur authentique viabilité économique. J'ai l'impression que très souvent, c'est des expériences intéressantes, mais qui sont directement ou indirectement subventionnées par l'économie dont précisément on ne veut pas, mais qui en fait, par le biais de subventions souvent publiques, permet à ces structures quand même de fonctionner. Et ça, c'est quand même quelque chose, à mon avis, qui est pas vraiment satisfaisant. C'est-à-dire que souvent, elles ne sont pas suffisamment autonomes du point de vue de leur, je dirais pas de leur rentabilité, mais du point de vue de leur autonomie économique. Mais autrement, je pense que c'est excellent. Cela dit, de nous, si on regarde ça du point de vue de l'écologie industrielle, on va dire, bien, examinons l'activité socio-économique de type système d'échanges locaux et sans préjugés idéologiques ou politiques, regardons quelles sont les implications en termes de consommation d'énergie et de matière. Éventuellement, voyons ce que ça implique comme nombre d'emplois créés aussi, on peut corréler les deux. Et puis, voyons quel est l'avantage. Dans certains cas, on pourrait imaginer que ces systèmes de création de valeur alternative peuvent être meilleurs, mais dans d'autres, on pourrait imaginer qu'ils ne soient pas forcément meilleurs. Parce que là, nous, on est dans une attitude où on ne part pas du principe que la solution X est meilleure par définition qu'une autre.
Et souvent, ces systèmes sont complémentaires.
Oui, oui.
Ils n'ont pas pour vocation d'être autonomes seuls. Ils viennent en complément et ils donnent justement d'autres valeurs possibles que celles de la valeur marchande.
Oui, oui.
Mais en plus de ça, ça ne rentre pas dans le PIB.
En général, pas.
En général, pas s'il n'y a pas d'échange de monnaie.
Oui.
Et la question peut aller plus loin. Est-ce que si on parle de services d'échange locaux ou de monnaie alternative, est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes de valeur qu'on pourra dans le futur voir émerger?
Oui.
Je pense par exemple à la valeur de réputation.
Oui.
Qu'une monnaie ira peut-être pas directement.
On le connaît déjà à travers le goodwill dans les entreprises, par exemple.
Bien sûr,
une marque. Une marque, ça se vend. Donc, ça a déjà une valeur. Alors, bon. Et d'ailleurs, par rapport à ce que disait Baudouin sur la différence entre la production réelle et puis la masse monétaire, on a eu, il y a un an et demi maintenant, Yann Moulier-Dutton, un philosophe et un économiste, qui est venu nous parler. Et qui lui estime que la différence entre les deux peut s'expliquer en partie, en tout cas, par justement toute la valeur de l'immatériel, qui n'est pas encore suffisamment valorisée, entre guillemets, ou prise en compte. Ça se discute, hein, mais.
Capter l'immatériel.
Mais justement, de réputation, etc.
Ou des externalités
qu'il faudra leur réintroduire dans
aujourd'hui dans le système informatique des Internet, la valeur de Facebook vient plus de l'extérieur que de l'intérieur. Ça vient des clients qui continuent à l'alimenter.
Alors, on voit que ça fait longtemps aussi qu'il y a une tentative de d'utiliser un autre instrument que la monnaie. Alors, les premières tentatives, c'était l'énergie, l'unité énergétique. Alors, il y a une idée qui fait de plus en plus son chemin, plus récemment, c'est l'exergie. Donc, l'exergie. Donc, l'exergie, c'est l'élément complémentaire de l'entropie. Donc, l'exergie, c'est une mesure alors, quantitative de la qualité d'une énergie. Donc, tout processus économique, quel qu'il soit, donc, du point de vue de son substrat physique, énergétique et matériel, peut être analysé en termes d'exergie. Parce que toujours on va d'une énergie de qualité haute à une énergie de qualité de plus en plus basse. Et ça, on peut très bien imaginer qu'à un moment donné, ça devienne un des instruments de mesure, de création de la valeur ou de destruction de la valeur écologique, par exemple. Moi, il y a un autre aspect qui m'intrigue. Plus longtemps, j'ai l'impression que la ressource, je ne sais pas comment ça pourra prendre forme vraiment. Il me semble que la ressource qui devient de plus en plus critique, c'est le temps, partout.
Il y a l'immortalité,
alors voilà.
Non seulement c'est une question de temps passant, mais le temps est réparti de façon totalement illégale. Hein.
Oui, c'est l'allocation du temps.
Il est un cadre, il va commencer à travailler plus jeune, il a une espérance de vie moindre, il va moins bien gagner sa vie, il va se faire dans des conditions plus défavorables. Le temps est très mal distribué. Et l'inégalité, il y a une vingtaine d'années, Jacques Delors avait un cours de réflexion qui s'appelait Changer de projet. Et Changer de projet, ils ont sorti un livre, je pense que ça s'appelait, et ils analysaient, dans un chapitre en tout cas, la société sous l'angle du temps. Et ils montraient toutes ces inégalités. On prend sa pension au même âge, mais il y en a un qui a une espérance de vie moindre que l'autre. C'est très intéressant. La notion de temps et la notion d'énergie sont les... La notion de temps, c'est pour l'aspect humain. Et la notion d'énergie, c'est pour la complémentarité écologique.
Je peux compléter cette question du temps. Justement, est-ce que notre monde n'aura pas disparu avant que les solutions que vous proposez trouvent leur dimension. Ça paraît des solutions écologiques magnifiques, hein, mais marginales, qui restent, ça semble encore tout petit par rapport aux besoins du monde, aux besoins d'aujourd'hui, des 20 prochaines années. Et le rythme de l'introduction de ces transformations, quand on voit le poids de la finance à côté et de la transformation des mentalités qu'il faudrait par rapport à ce monde du pouvoir en face, c'est terrible.
Je pense que ça peut aller vite. La finance, c'est un autre problème.
Ouais.
Mais mettre en place une comptabilité environnementale, vous savez, on lance demain un projet pilote pour éprouver la méthodologie dans un certain nombre d'entreprises. On oblige les 500 plus grandes entreprises européennes à franchir le cap, et puis quelques années après, les suivantes. Là, on a un système global, on peut mesurer, à un moment, on peut éventuellement passer à l'aspect fiscal. Ça peut aller très vite. Hein. La comptabilité analytique du pont de Nemours, c'est quoi? C'est un grand siècle. Pas beaucoup plus, hein. Elle est généralisée dans toutes les entreprises.
Mais le 11, c'est qui?
Pardon?
Le 11, c'est qui?
Mais ça, c'est les pouvoirs publics qui doivent en prendre l'initiative.
Oui, des représentants de la commission.
C'est pas commission, là, c'est juste une opinion personnelle. Mais quand on parle des valeurs alternatives, je n'ai pas entendu le mot connaissance. Le mot connaissance dans la société de l'information est de plus en plus important, de plus en plus relié au concept de dématérialisation. Ce n'est pas, vous avez mentionné un concept de dématérialisation qui est peut-être. Qui ne tient pas du tout compte des connaissances, mais en effet, vous savez, dans Second Life, par exemple, on peut acheter des objets virtuels, tout à fait virtuels, qui ont un coût réel,
ouais.
Et qu'on doit payer avec de l'argent réel. Mais même sans aller dans Second Life, quand vous voyez tous les phénomènes de la mode, vous achetez des objets griffés, où ce que vous payez, en effet, aux 90%, c'est la valeur de la marque qui est dessous et pas les coûts de fabrication de l'objet lui-même. Donc, on paye les connaissances, on paye les processus.
L'immatériel.
L'immatériel. Donc, tout ça, quelle est l'erreur que vous avez jouée pour l'écologie, pour la soutenabilité de la planète?
Alors, il y a une distinction qui me semble assez, c'est une nuance quand même que je ferais. Je pense qu'on peut distinguer la dématérialisation de l'économie de l'immatérialisation de l'économie. Mmh. Et l'un n'implique pas forcément l'autre. Donc une économie de l'immatériel, c'est une économie où la valeur ajoutée se fait de plus en plus sûre de l'immatériel. Donc toute une série d'emplois, d'activités économiques qui se font sur ce qu'on appelle l'immatériel. Mais en revanche, pour faire fonctionner l'économie de l'immatériel, qu'est-ce qu'il en faut de la matière? Qu'est-ce qu'il en faut de l'énergie? Qu'est-ce qu'il en faut des satellites relais? Qu'est-ce qu'il en faut des antennes relais? Qu'est-ce qu'il en faut des centrales électriques qui font l'électricité pour faire fonctionner tout ça, avec une multiplication exponentielle du parc d'équipements informatiques, par exemple. Donc, on se doute bien qu'une des implications possibles de l'immatérialisation, c'est la dématérialisation, c'est ce qu'on aimerait bien faire. Mais on s'aperçoit que ce n'est pas automatique, c'est pas si simple. Quand on a commencé à s'apercevoir qu'à San Francisco, quand on a commencé à développer le e-commerce, puis qu'on a commencé à avoir des nouveaux types d'embouteillages, parce que l'e-commerce, non seulement n'a pas complètement tué les centres commerciaux, de loin pas, mais en plus a généré une explosion du trafic des courriers rapides, puisque d'un clic de souris, on veut le lendemain recevoir son a commandé, livré par DHL, par Federal Express, etc. Tout d'un coup, on avait apparaître des nouveaux types d'embouteillages. Je suis d'accord, ce n'est pas facile de les prévoir, alors qu'on disait, on rigolait, la brick and mortar economy, tout ça, c'est fini. Donc, Là, je suis tout à fait d'accord. Dans mon livre, je parle de la substitution informationnelle. On aimerait avoir de l'information, de la connaissance qui permet de substituer autant que possible la matière. Le problème, c'est que pour générer de la connaissance et puis pour générer de l'information, il faut quand même une infrastructure matérielle énergétique qui est pas négligeable, avec des risques d'effet rebond.
Mais quand même, c'est vrai qu'il a des coûts. C'est vrai que même on recherche Google à un prix en termes d'énergie. Mais quand même, toute l'énergie absorbée par tous les systèmes SFT de la Terre, c'est pas plus que les 8% de l'énergie totale. C'est ce qui n'est pas négligeable. Il faut voir les choses en perspective, aussi à rapport aux potentialités et au rôle qu'elles jouent dans l'économie.
Mmh. Moi, j'ai une question à ce sujet, c'est comment mesurer tout ça? Je vais parler de vos systèmes où vous avez calculé, donc comment les calculs sont-ils faits? Donc, et la deuxième question aussi sur les calculs, c'est si l'être humain fait partie de vos systèmes ou pas?
Ah, oui, à mon avis, oui. On a même travaillé là-dessus récemment, en particulier en réintroduisant une grandeur qu'on oublie un peu ici, c'est le travail humain, mais je parle du travail physique.
Combien il a mangé?
Oui, exactement. Et là, c'est pas du tout facile, parce qu'en fait, il n'y a pas une corrélation linéaire entre ce que quelqu'un absorbe et puis l'output qu'il fournit, surtout si c'est de l'output immatériel sous forme de connaissance. C'est pas facile, mais enfin, on peut essayer. Et je pense qu'il y a un domaine de recherche qui va se redévelopper, c'est d'arriver à bien évaluer et quantifier l'output humain, le travail humain, par exemple, qu'on peut parfaitement inclure, et qu'on a inclus récemment dans une recherche sur les symbioses industrielles, qu'on peut parfaitement l'inclure dans ces bilans. Maintenant, si on prend l'analyse des flux de matière, un des intérêts, c'est que c'est une méthode fondamentalement très simple. On peut avoir des incertitudes sur les données, mais en gros, c'est des additions et puis des soustractions. En revanche, là où c'est plus compliqué, c'est dès qu'on veut analyser des impacts potentiels, parce qu'il faut faire des pondérations, il faut faire des allocations, et puis ça dépend forcément de choix qu'on fait à un moment donné, qui finalement sont souvent des choix philosophiques ou éthiques en dernier ressort. Donc, on a des moyens, mais on sait qu'on n'a pas des résultats totalement fiables, indiscutables, etc. Mais ça répond à votre question,
Moi, je pense que, comme je pense que c'est une question de normes et d'outils. On a bien réussi à mettre en place en très peu de temps un marché pour les certificats pollués, certificats carbone. D'abord, c'est une norme, c'est un marché, on l'a créé toute pièce, encore à moins de 10 ans.
Oh, oui.
Ça ne fonctionne pas, je suis d'accord.
Je suis installé uniquement parce que le lac est tellement large que la bête au milieu ne s'en va jamais. Et deux, ça crée déjà plein de financiarisation avant d'avoir une
personne. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec le système. Oui. Je préfère le système du bilan environnemental qui est beaucoup plus complet et global. Ce que je voulais seulement dire, c'est qu'on a réussi à le faire en très peu de temps.
Oui, mais à cause du fait que c'est inefficace, c'est le problème, c'est que c'est lié. Ouais. Parce que là, je voudrais bien être en venir au rapport entre. Enfin, inefficace, à terme pas. L'idée des pouvoirs publics, c'est qu'on va resserrer la sauce petit à petit.
Tout à fait. Modifier les normes, faire évoluer le système normatif.
Oui.
C'est tout.
Oui. Oui. Par rapport aux mesures, c'est intéressant que dans les deux exposés tout à l'heure, parler justement de calcul et de normes. Et dans le cas de l'approche par entreprise, j'introduis donc la notion de coût.
De valeur soustraite.
Moi, je me demande si donner une valeur financière à ça est nécessaire. Si on s'en tient à des kilos et on est sûr qu'un kilo de chose est un kilo qui sert. Mais s'il ne faudrait pas mieux s'en tenir justement à des valeurs non financières pour permettre à des gens qui peuvent alors interpréter la valeur de l'entreprise par rapport à des logiques différentes. Une fois que c'est fini, d'abord, il faut se mettre d'accord sur on ajoute quand même un degré de sophistication avec ce travail d'introduire un élément financier par rapport à ça. On s'en tient à des paramètres plus primaires.
Écoutez, si je prends l'exemple plus simple, l'eau usée, qu'est-ce que les scientifiques qui ont travaillé sur ce projet ont fait? Ils ont été voir 9 stations d'épuration et ils ont pris les prix de revient, le prix de revient moyen de ces 9 stations d'épuration. Pour les eaux usées de type ménager. Je ne parle pas alors des eaux usées de type industriel avec chargé de. Bon, c'est encore un autre problème. Puis ils sont venus. Mais le plus dur dans ce projet a été de convaincre les scientifiques de se mouiller et de donner une valeur. Ils ne voulaient pas parce qu'ils engageaient leur réputation. Et on leur a simplement dit, mais écoutez, le problème n'est pas là. Vous allez être critiqué, c'est sûr. Mais votre première évaluation, ce sera la première norme. Et puis comment comptabilité économique, si je puis dire, ben, les critiques font évoluer la norme. Exactement comme dans le marché des syndicats, vous avez mis en place un système qui va évoluer, il y a une marge d'erreur, il y a des dysfonctionnements, et progressivement, on va resserrer le système pour l'adapter à la réalité. Mais en moins, il faut commencer.
Oui, mais ce prix va varier si on est en Hollande, si on est en Wallonie, si on est en Belgique, si... et enfin, je ne sais pas dans quelle mesure il n'y a pas une distorsion.
Est-ce que c'est dérangeant dans la comptabilité économique, le prix d'électricité varie selon le pays aussi? C'est bon, ça ne me dérange pas.
Oui, mais moi j'essaie de rentrer dans la logique ici, qui est de penser plus en termes des matériaux qu'on utilise.
Mais on est obligé, hein. on est obligé de passer en termes de matériaux,
oui, exactement,
à la financiarisation. Hein, donc,
et justement, est-ce que vous pourriez peut-être tous les deux, Baudouin et Chourel, expliquer fondamentalement comment vous percevez les différences qu'il y a entre vos deux approches, je veux dire. Parce que ça se limite simplement à dire que d'un côté, toi, Chourin, c'est beaucoup plus les flux de matière, tandis que Baudouin, à travers les bilans environnementaux, y ajoute la valeur monétaire qui est associée. Est-ce que toi, c'est plus macro, tandis que Baudouin, c'est plus au niveau d'une entreprise et de son environnement, enfin, comment distinguer un peu les deux, leur complémentarité ou leur différence?
Oui. Disons, moi, j'ai insisté ce soir sur ce qui me semble être l'utilité de revenir aux fondamentaux qui sont sous-jacents à toute unité économique, qui sont des flux de matière et d'énergie, qui sont toujours présents directement ou de manière indirecte. Maintenant, moi, j'étais assez d'accord avec ce que disait Baudouin. En fait, ce qu'il disait sur la financiarisation des impacts, c'est que c'était une stratégie rhétorique. C'est-à-dire que pour être entendu du pouvoir dominant qui résonne en termes financiers, il est vrai que, comme ça, un peu par sensibilité personnelle, je pense comme beaucoup de gens, j'ai toujours été un petit peu dérangé par cette manière de vouloir financiariser tout, y compris maintenant les services écosystémiques.
Oui.
Donc, c'est ce que veut faire la Banque mondiale depuis un certain nombre d'années. On va tout financiariser et puis finalement, ça résout tout à un problème de coût-bénéfice.
Oui.
Alors là, je pense qu'il y a un ensemble de gens, dont moi, où il y a quand même une sorte de malaise plutôt éthique, c'est-à-dire finalement, si le seul critère de choix en dernière instance, c'est uniquement un critère coût-bénéfice, il me semble qu'il y a quelque chose qui manque.
Oui.
Voilà, c'est une chose. Mais maintenant, ce qu'on aimerait, c'est OK. Si c'est comme ça qu'on arrive à convaincre les personnalités dirigeantes avec cet argument-là, c'est-à-dire l'argument de type financier, pourquoi pas? Mais ce qu'il faudrait au moins, c'est qu'on ait dessous la réalité sous-jacente. Et là où les choses se compliquent un peu, c'est que pour l'énergie, on a une unité universelle, comme l'argent. C'est-à-dire qu'on peut tout convertir en unité qui serait le joule, par exemple. Pour la matière, non, parce que un kilo de sable, ce n'est pas la même chose qu'un kilo de chlore dans l'environnement. Donc, c'est là où ça se complique. On ne peut pas juste tout dire, oui, c'est des kilos de, oui. C'est une première approximation. Mais après, c'est là où il faut commencer à inclure l'aspect impact qualitatif. C'est que, oui, ben, un kilo de phosgène, ce n'est pas du tout la même chose qu'un litre d'eau, etc. Donc, il n'y a pas d'unité homogène pour les flux de matière. Donc, c'est forcément une comptabilité hétérogène en même temps, dès qu'on s'intéresse à ces impacts. Alors évidemment, ça complique la chose, mais ça la rend aussi peut-être plus intéressante. Oui, madame, oui.
Oui, non, j'avais dit plusieurs choses par rapport à la fongibilité. Je trouve que justement, le changement climatique, je me suis déjà demandé si ça aurait eu un tel impact s'il n'y avait pas le CO2 comme facteur commun.
Oui,
absolument. Toute l'activité humaine, industrielle, produit du CO2. Donc ça, c'est le nouveau fongible universel, peut-être.
Oui.
Et puis, pareil maintenant avec la transition digitale, c'est le bit. Tout se traduit en bit, en fait, d'une façon.
Donc, la preuve de ce que vous dites, c'est qu'on parle de CO2 équivalent.
Oui.
C'est exactement la preuve de ça.
C'est ça, voilà. Maintenant, j'en ai. J'ai pas encore parlé de masculin féminin, c'est pour un truc. Donc, alors, il y a une chose que j'avais envie de vous demander, c'est par rapport à cette hyper-responsabilisation. Parfois, quand on a l'impression que le temps presse et qu'on va sauver la planète, hein, je m'excuse, mais moi, j'ai l'impression d'avoir affaire à des enfants qui croient qu'ils sont responsables du divorce de leurs parents. Je pense que, franchement, la planète, elle n'a pas besoin de nous. Et que quand on croit qu'on doit sauver la planète, c'est une façon de se rendre important, mais au-delà de l'importance qu'on peut vraiment avoir. Donc, je pense qu'on peut se donner du sens à nos vies sans avoir l'impression qu'il faut ni sauver la planète, comme Archimède disait, si on avait son point d'appui, ni la sauver. Cette formulation me semble vraiment folle. Donc, je voulais...
Enfin, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Oui. Et j'ai justement l'impression que la manière dont je présente le gouvernement Michel, c'est justement pas du tout il faut sauver la planète, on est là pour sauver la planète. Alors moi, je ne suis pas du tout sur une ligne catastrophiste, je ne suis pas un optimiste niais non plus,
par contre,
je pense.
Ce dont on manque, je crois, c'est le sens. Quand vous dites cause-bénéfice et tout, qu'il faut convaincre, que ce soit la mise des finances, ce qu'on a plus, c'est le sens. Et ça, je crois que c'est l'héritage direct de la trajectoire qu'on a depuis les Lumières, qu'on a perdu le sens de la mesure et le sens des limites, puisque le progrès, c'est la transgression comme valeur suprême. Et alors, ça nous fait perdre nos repères, mais on manque de sens, et c'est plus le sens aujourd'hui qui nous manque que l'idée que ça va tout foutre le camp dans, je ne sais pas combien d'années, 200, 300, 500 ans.
C'est ce que je voulais dire à la fin, quand je citais cette jolie phrase de Centrin, quand il disait, c'est pas seulement quelle terre on laisse aux enfants, mais quels enfants on laisse à la terre. C'est vraiment la question du sens. Ouais. Il se trouve qu'on est dans une phase historique en Occident.
Pourquoi pas le sens, c'est notre question. Oui. La consommation outrance, c'est une perte de sens pour nous, chacun.
Oui, en tout cas ici en Europe, hein, il y a d'autres cultures où la consommation, c'est pas du tout une perte de sens.
Non, mais pour nous, oui. Et je crois qu'on n'a pas
cette
question de la perte du sens.
Oui, non, je faisais allusion à ça en parlant des enjeux. Je faisais allusion à ça en parlant des enjeux anthropologiques qui sont consubstantiels. Mais alors moi, j'ai toujours aussi été frappé du fait qu'il y avait notamment dans les milieux des ONG environnementales une sorte de volonté de puissance, un peu d'avance à dire. C'est nous qui allons sauver la planète, il faut la sauver de toute urgence. Moi, je suis tout à fait d'accord aussi que la planète va très bien, elle n'a pas besoin, elle n'a pas de problème, elle va bien, elle est comme elle est, c'est tout. Bon, quand même, c'est dommage. Hein. On ne peut pas s'empêcher de penser que c'est quand même dommage si la biosphère est dans un mauvais état. Enfin, voilà, ça c'est évident. Mais je ne suis pas du tout dans une approche et je ne pense pas que les projets industriels, justement. Il me semble qu'un des éléments qui peut la rendre intéressante, c'est qu'elle n'a pas ce côté déprimant et culpabilisant qu'on voit très souvent dans les approches environnementales. Puis en revanche, elle ouvre pas mal de pistes pour essayer de faire des choses intéressantes, mais pas uniquement parce que le ciel va nous pendre sur la tête, simplement parce que c'est des choses intéressantes à faire pour continuer l'aventure en soi. Et on n'est pas du tout dans une posture de type...
Et les buts, parce que ce qu'il disait Baudouin sur le fait que cette masse financière va... Tellement on dit qu'en septembre on a mangé notre planète et puis qu'on commence à vivre sur la deuxième ou la troisième, et c'est fou comme on parvient à plus avoir l'impression qu'il nous faudrait trois planètes que de voir qu'une on n'en aura jamais qu'une. Et que est-ce qu'on pourrait dire ou pas que le fait que les bulles s'écrasent, c'était .com, puis maintenant c'est ça, c'est là où le réel nous rattrape en fait. C'est qu'à un moment donné, de toute façon, on va tomber par terre. Alors est-ce que c'est si grave de retomber par terre?
Bon, je dirais que ça dépend des cas, mais ça fait souvent du bien de revenir sur Terre.
Toutes les bulles qui pètent, enfin, c'est normal. Bulles de savon, plutôt que d'imaginer qu'on va dans quatre planètes ou qu'on va tuer la nôtre, c'est les bulles qui pètent.
Oui, elles vont continuer, parce que c'est...
Oui, c'est ça, il y en aura, puis elles vont
continuer. Il y a des hommes dans les bulles. À partir du moment où le tiers...
Des hommes dans les bulles, c'est vrai.
Oui, c'est qui est dans les bulles, c'est ça qui est
important. Ben oui, les Américains et leur maison, tout ce qu'ils ont abandonné...
Oui, c'est ça, c'est vrai.
La situation dramatique dans laquelle ils sont pour beaucoup d'entre eux aujourd'hui, je crois que ça ne peut pas nous laisser indifférents en se disant qu'ils sont frères.
Je voudrais que tout le monde puisse s'exprimer parce que je.
Mais je voulais juste rajouter quelque chose par rapport au temps, parce que je n'avais pas répondu. Je crois d'abord que. L'avenir est ouvert, peut-être bien que tout ce qu'on va faire ne va pas suffire. C'est peut-être les bonnes idées, mais elles ne sont pas mises en œuvre à temps. Et donc, on sera peut-être confronté à des choses redoutables, peut-être bien. Mais en même temps, on sait quand même, c'est un des principes de la théorie des systèmes, c'est que c'est pas linéaire. C'est-à-dire, il peut y avoir comme ça des petites choses qui s'accumulent, puis tout d'un coup, il peut y avoir une transition rapide. Puis on peut voir aussi, ça c'est sous un autre angle, on peut dire, mais c'est peut-être une propriété de résilience du système qu'il ne change pas comme ça du jour au lendemain, tout de suite. Tant mieux, peut-être, parce que autrement, si tout d'un coup tout le système changeait en quelques semaines sous prétexte que c'était l'idée qui est à la mode plutôt que de l'autre, on peut voir ça sous l'autre angle. C'est donc pas forcément un mal que le changement ne se fasse pas si vite, même s'il y a évidemment un risque qui est associé. Mais en général, quand on sait que le système complexe vivant, c'est plutôt un phénomène un petit peu imperceptible, puis tout d'un coup, il peut y avoir un changement de phase assez rapide.
Des changements climatiques, en effet, il y a des changements.
Ouais, c'est un exemple typique, voilà.
Moi, j'avais une question par rapport, on n'a pas vraiment évoqué le fait qu'on est, je pense, il y a un mois, on est passé 7 milliards d'habitants, on sera à 9 dans 20 ans, je pense. Alors, j'avais deux questions par rapport à ça. La première, c'est justement en termes d'écologie industrielle, est-ce que les citoyens et mieux les chefs d'entreprise tels qu'on en a ici dans la salle vont se mettre naturellement entre eux pour se dire ok, on va faire de l'écologie industrielle. Donc c'était mon premier point de la question. Alors est-ce que c'est des gouvernements qui vont imposer, forcer par des contraintes. Et la deuxième chose, c'est que vous avez parlé de l'énergie. Alors, bon, quelle est un peu votre vision là-dessus, quelle est la disponibilité, les prix d'énergie. Parce que je pense qu'il y en a un gourou hollandais qui a dit, mais je ne crois pas, mais que l'énergie sera bientôt gratuite pour tout le monde. Moi, je produis de la veille pour vous. J'avais un mot.
Je ne suis pas spécialiste de l'énergie, mais j'ai été écouté trois conférences il y a quelques mois. Il y avait le patron de Total, il y avait un représentant de l'Agence internationale de l'énergie invité par GDF-Suez, Electrabel, qui parlait plutôt d'électricité, et puis j'ai écouté quelqu'un chez Greenpeace. Je suis sorti là en me disant, ils partent des mêmes données, ils ont des conclusions différentes. Ils partaient tous des chiffres de l'Agence internationale de l'énergie. Quand j'ai posé la question au patron de Total, je lui ai dit, mais moi j'ai été écouter le spécialiste de l'agence. Enfin, il m'a dit, écoutez, moi c'est mon bureau d'études qui prépare mes speeches. Le message du groupe pétrolier, c'est-à-dire, écoutez, il ne faut pas s'inquiéter, du pétrole et surtout du gaz, il y en a pour des décennies, la technologie va avancer, on va trouver de plus en plus en profondeur, on va trouver. Il n'y a personne qui peut répondre. Il y a un élément, moi, qui m'interpelle, je ne sais pas si j'ai raison, mais en tout cas, j'ai vu une étude de BP Solar qui expliquait que le prix de revient de l'énergie solaire photovoltaïque dans 10 ans, l'énergie la plus performante, photovoltaïque la plus performante, sera compétitive avec les énergies fossiles. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant parce que, parce que j'ai raison, pour moi, c'est un tournant. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, ce n'est plus l'énergie solaire qui va devoir être compétitive et s'aligner en termes de prix sur l'énergie fossile, ça va être l'inverse.
Surtout qu'elle est subsidiée.
Et donc, ça veut dire par exemple qu'en termes de recherche, maintenant, la recherche est massivement plus importante dans les énergies fossiles que dans les énergies alternatives. Bah, peut-être bien que dans 10 ans, ça va basculer. Je ne sais pas si j'ai raison ou pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'interpelle et qui m'a frappé. On verra. Mais il y a peut-être des gens qui connaissent mieux dans le domaine que moi ici. Donc.
Oui, bon, l'énergie, c'est pas non plus un spécialiste d'énergie, mais bon, comme on dit souvent, c'est la ressource ultime. C'est-à-dire, pour consommer de la matière, on a toujours besoin d'énergie. Maintenant, là aussi, quand on a une approche qui n'a pas un a priori idéologique, on ne considère pas que les énergies renouvelables, par exemple, c'est un abus de langage, le reste, hein, que les énergies qu'on fait notre calme, qui est inépuisable à notre échelle, que ces énergies sont par définition bonnes pour l'environnement. À voir. Il y a 15 jours, il y a eu des grandes manifs tout près de Shanghai à cause de l'invraisemblable pollution provoquée par les usines qui fabriquent les panneaux photovoltaïques. Je rappelle qu'une des industries les plus polluantes au monde, c'est l'industrie qui fabrique le silicium ultra pur pour faire les panneaux photovoltaïques. Et donc, comme l'avait dit la première étude de métabolisme industriel du secteur photovoltaïque il y a 15 ans, le jour où on va commencer à fabriquer à très grande échelle des panneaux photovoltaïques, on aura un problème d'environnement parce qu'il faut 4 tonnes de chlore, ne serait-ce que ça, pour purifier une tonne de silicium de qualité métallurgique. Donc, ça ne veut pas dire qu'on renonce au photovoltaïque, mais ça veut dire qu'une des priorités absolues, c'est de faire évoluer les technologies de fabrication de panneaux photovoltaïques. On veut dire par là que, en termes de bilan environnemental total, le bilan des énergies renouvelables, est, pour le moment en tout cas, il n'est pas toujours anodin, notamment parce qu'il y a une densité énergétique faible. Il faut beaucoup de matière pour pouvoir capter l'énergie dite renouvelable.
Optimiser les processus de fabrication.
Absolument, oui, tout à fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer. Ça veut dire que la priorité, c'est d'optimiser ces processus, de le faire vite. Tout à fait. Ouais. Oui.
Mais encore une fois, que nul ne peut prévoir l'évolution technologique. Je dirais qu'en nanotechnologie, nous travaillons avec l'université de Cambridge. Ils ont réussi à Cambridge à produire des câbles électriques supraconducteurs. Évidemment, c'est sur une toute très très courte distance. Et le problème, c'est d'optimiser et d'industrialiser le processus. C'est loin d'être fait. Mais si on arrive à ça, vous savez, demain, le projet allemand de SolarTech s'entrave dans le désert, on amène l'électricité ici. Et... Donc, je ne peux pas vous dire si ça va marcher. Je connais aussi ce cas de Chypre. La technologie est imprévisible. Et c'est un petit peu la leçon que j'ai retirée de cette conférence du patron de Total. Il pariait sur des technologies, la personne qui sait.
Et cette énergie solaire, ce n'est pas un moyen de réouvrir le système
que ce livre differmait.
Si, parce que c'est l'équilibre global.
Maintenant, il y a un autre indicateur en énergie, un petit peu moins connu, me semble-t-il, mais qui est quand même important, c'est l'indicateur EROI, donc c'est l'énergie investie pour obtenir de l'énergie. Alors là, il y a quand même quelque chose qui fait un peu souci, c'est qu'on voit que cet indicateur se dégrade avec le temps. C'est-à-dire, il y a encore 30 ou 50 ans, il fallait en gros dépenser l'équivalent d'un dixième de baril de pétrole pour extraire un baril de pétrole. Maintenant, on se rapproche, on est déjà à peu près à la moitié. Donc, la quantité totale qu'il faut investir pour récupérer de l'énergie a tendance à se dégrader. Ça ne vaut pas que pour l'énergie. Pour l'extraction minière, on voit très bien que de plus en plus, on doit s'attaquer à des filons qui sont moins riches, donc qui consomment plus d'énergie pour extraire la même quantité de métal, etc. etc.
Mais là, on est sur des énergies fossiles. Vous parlez des photovoltaïques, c'est plus de 2-3 ans de passer le bilan CO2 de l'énergie, je ne sais pas, mais je pense que c'est
justement, mais il n'y a pas que le bilan CO2. Et puis, il y a un autre indicateur qui est que, certes, la production et la consommation d'énergie a énormément augmenté ces derniers 30 ans, et on est en pleine phase d'augmentation. En revanche, d'après les chiffres que je connais, par personne sur la planète, la consommation d'énergie n'augmente pas. C'est-à-dire que, certes, en valeur absolue, ça augmente, parce que la population augmente, mais par personne, on n'a pas réussi à augmenter la production et donc la consommation d'énergie. Alors, si on se place, parce qu'il y a toute une littérature un peu historique, même les archéologues s'intéressent à ça, qui décrivent très souvent l'évolution des sociétés grâce à leur succès, à résister aussi longtemps que possible à la loi des rendements décroissants. Justement. À savoir qu'à un moment donné, on est dans un système où on n'arrive plus à générer un différentiel suffisant et tôt ou tard, le système finit par s'auto-étouffer ou s'auto-effondrer. Alors bon, c'est parmi les scénarios, ils valent ce qu'ils valent, mais ça une... Alors c'est pour ça que, évidemment, beaucoup de gens sont à la recherche de la solution un petit peu miracle qui pourrait tout d'un coup nous relibérer l'accès à des quantités importantes d'énergie. Ce qui fait souci aussi, c'est que, quand même, heureusement qu'on a des contraintes énergétiques, dans la mesure où ça nous limite dans notre consommation de matière. Si, comme souvent les gens l'imaginent, si on avait une source d'énergie illimitée, gratuite, d'une certaine manière, ça serait une catastrophe potentiellement, parce que du coup, on n'aurait plus de frein à la consommation de matière. Donc, pourquoi pas, mais alors, à ce moment-là, il faudrait encadrer ce qu'on va en faire de cette énergie. Enfin, c'est quelques éléments comme ça de réflexion.
Oui, Kevin, je crois que tu voulais dire quelque chose tout à l'heure.
Oui, peut-être par rapport à cela. Le problème est de savoir où l'énergie est consommée, où il y a le besoin d'énergie, et où elle est produite, et le coût de sa production à l'endroit où on en a besoin. Et donc c'est normal que ça n'augmente pas, parce qu'il y a toute une partie de la population qui n'a pas accès tout simplement à l'énergie, qui n'a pas accès à l'électricité. Si on doit produire avec du fioul, on doit transporter et créer de l'électricité délocalisée, c'est de l'ordre de 320 dollars, de mégawattheure, quelque chose comme ça, ce qui est évidemment hors de prix. Hein? Et aujourd'hui, il y a des technologies qui sont qui permettent de produire à des coûts qui sont inférieurs. Donc il y a des solutions, des technologies qui commencent à développer, notamment sur base de biomasse et de gazification, de bois, etc.
Mais là, Mais un élément qui me semble intéressant pour la réflexion, c'est peut-être de changer un peu le regard et de plus raisonner en termes de production ou de consommation d'énergie, mais en termes de confort. Finalement, ce qu'on veut, c'est un certain service, un certain confort, très souvent. Puis on fait des choses assez bizarres, quand même. Par exemple, pour prendre nos douches ou notre eau chaude sanitaire, on la chauffe à très très haute température pour la refroidir tout de suite après. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une approche où simplement on utiliserait déjà de la chaleur basse température pour juste monter jusqu'à 50-60 degrés? Non, on fait un brûleur qui nous monte cette eau facilement à presque 100 degrés, puis après on va la refroidir. Enfin, si on commence à regarder en détail, il y a quand même des tas de choses assez bizarres dans notre manière. Mais surtout, ce qui peut un peu changer, c'est ce que j'appellerais la conception soviétique de l'énergie, c'est-à-dire la conception productiviste. Il y a quand même toute une manière très traditionnelle de dire l'énergie, c'est un indicateur de développement. tant mieux si on consomme plus d'énergie. Alors maintenant, on va la consommer de manière plus efficace. Mais même dans le discours de l'efficacité énergétique, on est trop souvent encore dans une logique productiviste, y compris chez les promoteurs des énergies renouvelables. Ils s'enthousiasment qu'on produise toujours plus d'énergie, cette fois-ci à partir de renouvelables. On est toujours dans une logique productiviste. Il y a une autre approche, c'est des projets qui sont soutenus par la Commission, qu'on appelle la planification énergétique territoriale, où on regarde les choses vraiment différemment. On regarde un territoire donné, mais qui peut être une ville ou un quartier. On regarde à l'échelle, disons, 30 ans, quels sont tous les besoins énergétiques raisonnables pour un certain niveau de confort. Là, je parle de l'énergie vraiment pour la vie de tous les jours, pour la vie en ville. Eau chaude, sanitaire, refroidissement, etc. Ensuite, on regarde quelles sont toutes les mesures qu'on peut prendre pour réduire au minimum la consommation elle-même, tout en maintenant, tout à confort égal. Et le solde qui reste, qu'on devra produire et consommer, on va tout faire pour qu'il soit d'origine renouvelable au maximum. Et donc là, la question, c'est plus de produire un maximum d'énergie, c'est d'obtenir une fonctionnalité, puis on va essayer de l'obtenir avec le moins d'énergie possible et le peu d'énergie qui reste, ce qui devrait être si possible renouvelable. Et là, à nouveau, ce sera totalement différent selon le contexte. Suivant où on est, la source d'énergie principale, ce sera la biomasse locale, ou la forêt, ou des résidus agricoles, ou de l'éolien, ou du solaire, ou il y a un énorme potentiel avec l'eau, c'est-à-dire avec les lacs, les nappes souterraines, etc. Ça, je trouve assez typique d'une approche qui me semble vraiment prometteuse. C'est ce qu'on appelle cette planification de la consommation d'énergie à l'échelle d'un territoire, qui se focalise plus sur par quelle technique est-ce qu'on va bien produire de l'énergie. On en a besoin, mais c'est plus ça vraiment la question principale.
Comment cette approche territoriale, comment est-ce qu'on fait d'abord pour délimiter le territoire optimal et comment est-ce que les différents territoires s'imbriquent les uns aux autres dans l'approche écologie industrielle?
Ouais, bah, dans les faits, ce qui se passe, c'est qu'en général, ce qui délimite les territoires, c'est les sources de financement. C'est-à-dire, enfin, c'est le donneur d'ordre. C'est-à-dire, c'est des limites politiques. Quand j'ai montré le métabolisme du canton de Genève, les limites étaient politiques, ça n'a aucun sens. Mais ça n'empêche pas que ce qu'on fait, c'est le métabolisme en réalité derrière. On fait le métabolisme franco-valdo-genevois, c'est-à-dire canton de Vaud, tout le canton de Genève est l'un et la Haute-Savoie, parce que ça, c'est tout ce qu'on appelle le bassin du Genevois. Mm-hmm. Donc, du point de vue écosystémique, c'est ça, en fait, l'entité plus pertinente. Okay. C'est tout ce qu'on appelle un bassin de vie avec le bassin fluvial, le lac, etc. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par des découpages arbitraires qui sont de nature politique, administrative et budgétaire, mais derrière, on garde à l'esprit qu'après, dès qu'on peut, on arrive à assembler tout ça pour que ça corresponde mieux à la réalité physique. Ouais.
On parlait tout à l'heure de recherche de sens et d'indicateurs de mesure. Alors je pense naturellement à l'indicateur de goût. Oui. Est-ce que ça fait sens dans l'écologie industrielle, dans ta théorie, dans les versets directement, de remplacer notre PIB par
le bonheur intérieur?
Oui, le bonheur intérieur.
Pour moi, le bilan environnemental n'est jamais une étape. Hein. J'ai jamais dit, l'unité de mesure finale, c'est l'énergie. Le temps, pour les aspects humains, c'est le temps. Je pense qu'on peut l'intégrer. Ça ne dit l'environnement pas, c'est jamais une étape technique, c'est autre chose, hein, qui va permettre de discipliner l'économie.
Mais l'objectif final n'est-il pas, en fin de compte, notre situation harmonieuse sur la Terre?
Si, je ne peux pas dire non. Mais là, je ne vois pas encore clairement vers où on va. Moi, je me contente de dire, voilà, je vois plus ou moins dans quelle direction on doit aller, je vois les premières étapes, je suis content avec ça.
Oui, alors moi je dirais qu'une approche comme l'économie industrielle, elle a des incidences, elle a des implications sur ce plan, mais elle a pas de prétention à se substituer ou à jouer un rôle de substitut de sens ou de quête spirituelle. Ce qu'on voit souvent aujourd'hui dans le discours environnemental, en Occident aujourd'hui, une des manières d'accès aux questions de sens, spiritualité, passe par la question environnementale. Alors du coup, ça la biaise beaucoup et je ne suis pas sûr que forcément ça soit constructif. Hein. Mais si je prends exemple le bonheur national brut, je dis très bien, très parfait, regardons quels sont les flux de matière d'énergie consommés dans une société où l'indicateur principal c'est le bonheur national brut. Je ne suis pas certain que ce sera automatiquement meilleur que dans un autre. Je veux dire, amenez-moi n'importe quel système économique, on va simplement regarder objectivement est-ce qu'il est viable du point de vue de son fonctionnement interne et du point de vue de son interaction avec la biosphère. Je n'ai rien contre le bonheur national brut, étudié sous l'angle de l'écologie industrielle, on va simplement l'examiner comme n'importe quel autre système pour s'assurer que finalement il est viable. Mais on ne va pas lui donner le bon Dieu sans confession.
Ni mieux ni moins bien, c'est à examiner.
Voilà, tout à fait. Alors, ça laisse complètement ouvert la question de savoir, sur le plan anthropologique, comme je l'appelais, si une société qui fait la promotion du bonheur national brut est plus viable, alors sur un plan symbolique, anthropologique, qu'une qui ne fait qu'exacerber la compétition entre les individus. J'ai tendance à penser que oui, probablement, c'est plus agréable de vivre dans une société qui fait la promotion d'autres valeurs. Probablement, mais bon. Voilà. Ouais.
C'est pas une question d'agréabilité, c'est aussi de superabilité.
Ouais.
Parce que c'est un modèle qui peut durer dans les millénaires, mais par contre, notre modèle, c'est pas très longtemps, sans être catastrophiste. Mais...
Non, je suis pas complètement d'accord avec toi, selon ce que tu viens de dire. Mm-hmm. Parce que ce qui est important, c'est mesurer quelle est la durabilité de l'approche. Et donc, on ne peut pas, a priori, savoir que cette approche-là elle sera plus durable qu'une autre.
Voilà, c'est ça.
On sait que notre approche n'est pas trop durable selon les prévisions.
C'est vrai. Ça, c'est vrai.
On sait que notre approche, par contre, est une approche qui est pratiquée plus ou moins depuis le début de la civilisation.
Mais ça n'implique pas que depuis l'ère industrielle, c'est l'approche durable. Et ça, c'est ça qui est important, je pense.
Ça mène une grosse question. En termes historiques, justement, ben, tu as montré les différentes grandes étapes, mais qu'est-ce qui caractérise fondamentalement alors maintenant notre système par rapport au précédent en termes d'écologie industrielle? Tu l'as évoqué, hein, c'était la qualité totale.
Oui, je faisais part aussi. C'est une manière d'analyser les grands éléments structurants en termes de. Ça ne veut pas dire qu'ils annulent les autres, ils se superposent. Il y en a qui sont plus structurants. Il y a quand même eu cette révolution durant toutes les années 80, puis partout dans l'entreprise, on a commencé à mettre en place des études de qualité parce qu'on voulait moins de défauts pour les raisons de rentabilité. Puis maintenant, on est en train d'élargir la notion de qualité parce qu'on veut diminuer les risques, y compris les risques environnementaux. Mais je trouve qu'on ne réalise pas à quel point on est maintenant dans une période historique très spéciale où c'est maintenant que le système industriel... La révolution industrielle, c'est maintenant. C'est-à-dire qu'on est dans une phase d'accélération inédite de la consommation de matière et d'énergie. C'est surtout les flux. On oublie que... Alors ça, c'est même l'Agence internationale de l'énergie. Ça, c'est un chiffre qu'elle donne. On n'a jamais consommé autant de charbon. Et le 21e siècle sera, entre autres, le siècle du charbon. On va consommer autant de charbon dans les 30 années qui viennent que durant les 250 ans depuis la révolution industrielle. On est dans une phase historique vraiment très, très particulière du point de vue de l'augmentation de la consommation de matière d'énergie. Alors, évidemment, ça fait souci du point de vue des échéances temporelles. Donc, honnêtement, on ne sait pas si on va arriver à freiner certains processus à temps ou pas. Mais est-ce que c'était ça ta question?
Oui.
Moi, en tout cas, j'ai une question qui est prolongée parce que vous alliez un petit peu vite à la fin de votre intervention.
Oui.
Et j'ai juste noté, peut-être entendu aussi, un terme qui était ce cinquième ou sixième cluster. Hein,
oui.
Vous disiez vers la singularité.
Oui.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ah oui. Bon, la singularité, d'abord, en mathématiques, hein, c'est un point au-delà duquel on peut... C'est une discontinuité. Et puis, en physique, par exemple, un trou noir, c'est une singularité. C'est-à-dire, en fait, c'est une construction mathématique. Et au-delà de ce point, les lois traditionnelles sont plus valables. Bon. Maintenant, au début des années 90, c'était en 93 précisément, il y a un mathématicien qui s'appelle Werner Winge qui a proposé d'appeler singularité le moment où le système technologique nous échappe. C'est-à-dire, en gros, au moment notamment où la puissance et l'intelligence incorporées dans le système des machines, des ordinateurs, etc., a des capacités cognitives qui sont supérieures aux nôtres. Alors, aux États-Unis, surtout, il y a toute une littérature, il y a même des gourous, il y a beaucoup de choses. Alors, il y a beaucoup de hype, un peu de rhétorique excessive là-dedans, mais enfin, il y a quand même des éléments de réflexion importants. Donc, je faisais allusion à la singularité. Alors, vous allez sur singularity.org, puis là, le 15-16 octobre, il y a le prochain sommet de la singularité à New York. Vous faites Singularity Summit, vous en aurez tout ce que vous voulez, avec évidemment l'approche un peu très très enthousiaste à l'américaine. Mais enfin, il y a quand même une évolution technologique qui nous conduit vers des choses qui étaient quand même tout à fait inédites. Et donc, notamment la question, j'ai fait allusion, de l'autonomie. Donc, l'autonomie, c'est la capacité qu'auraient les artefacts, donc des objets, de se répliquer eux-mêmes. C'était quand même une chose, en principe, réservée aux êtres vivants jusqu'à maintenant.
Et abusé par les êtres vivants,
parce que c'est la chose principale que la commande des consommations. Donc, c'est à ça que je fais allusion, ce qu'on appelle la singularité. Hein.
Il faut voir que dans le monde cybernétique, ça existe déjà, le virus s'auto...
Oui.
Ce genre de produit.
Oui.
Et ça viendra aussi dans le monde physique.
Exactement, oui.
Vous avez couvert très rapidement la notion de Product Service System, qui pour moi est une notion, telle que vous l'avez décrite, très intéressante, parce que ça semble être un mécanisme qui peut... autoréguler une transgression, est-ce que vous pouvez dire un peu plus
où ça en est? Pour info, c'est le prochain thème, hein. Donc du mois de novembre, c'est avec l'économie de la fonctionnalité, hein, Product Service System, on va vraiment l'aborder en profondeur, mais Jérôme, vas-y.
Oui, je préfère nettement cette expression de Product Service System, parce que l'économie de fonctionnalité, ça laisse entendre qu'on n'a plus besoin du produit. On a quand même toujours besoin de l'objet, oui. Simplement, ce qui change, c'est le pattern, la configuration de la propriété. Mm-hmm. Donc, ce n'est plus l'utilisateur final qui est le propriétaire avec des gens qui ont intérêt à ce que le consommateur final en achète le plus possible. La structure de la propriété se complexifie. Et en fait, ce que le consommateur final achète, c'est une fonction ou un service. Hein. Voilà, exactement. Alors, il y a un certain nombre d'exemples. Il y a deux manières aussi d'approcher ça. Il y a la manière, je dirais, un petit peu analytique, qui consiste à étudier, et puis comment ça marche, documenter, et puis qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et puis, il y a l'approche ingénieur, qui est plus récente, qui consiste vraiment à travailler avec une entreprise en remettant tout à plat et en disant comment est-ce qu'on conçoit un objet, comment est-ce qu'on conçoit un produit-service en termes d'ingénierie. C'est-à-dire, comment, en fait, on est en train, avec mon entreprise ingénieur, on est en train de travailler pour une très grande multinationale d'alimentation basée en Suisse, sur comment redesigner la pompe des machines à café, les fameuses petites capsules, pour qu'elles soient réutilisables par d'autres. Parce que finalement, pourquoi est-ce que les gens devraient acheter leur machine à café? Ils s'en fichent. Ils n'ont pas besoin du propriétaire de machine à café. Ce qu'ils veulent, c'est du bon café. Maintenant, quand vous achetez une machine à café, vous ne savez pas quoi faire avec la machine à café après. Et puis, il y a des multinationales comme ça qui voient arriver le jour, les ONG leur tomber dessus en disant « Vous êtes des sales pollueurs parce que vos machines à café terminent à la poubelle. » Voilà. Alors, ici l'approche consiste à raisonner en termes de fonctionnalité, mais alors ça devient plus compliqué parce qu'il faut trouver comment on redesigne, par exemple, tous les éléments de la machine en fonction de leur réutilisateur suivant. En général, on ne raisonne pas comme ça. Quand on est ingénieur, on regarde qu'est-ce qui va coûter le moins cher en fonction des matériaux d'une fonction donnée. C'est complètement différent comme travail même d'ingénierie. Ça aura des impacts sur le design, sur le choix des matériaux.
Actuel, les briques de Tetra Pak et les perçus de Nespresso. Tetra Pak a fait de gros progrès maintenant. Nespresso, c'est nous qui avons, pour la première fois, réussi à recycler leurs capsules. On va à Vevey fin novembre. Ils n'avaient jusqu'à présent pas trouvé. Et c'est stratégique pour eux, parce qu'ils ont des concurrents qui ont conçu des capsules biodégradables. Donc c'est capital pour...
Alors maintenant, ce qu'ils nous ont demandé, c'est de travailler sur l'étape de la machine.
Oui, tout à fait. Voilà.
Bon, alors, non, ce que je veux dire, c'est que cette idée, elle a l'air comme ça, assez simple a priori, mais elle suppose... Alors, un des éléments intéressants, c'est que ça supposerait, alors si on regarde, à supposer que ça se mette en place à relativement grande échelle, ça fait un déplacement du centre de gravité de l'activité économique. Depuis deux siècles, le gros de l'activité économique, c'est production, 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 puis on augmente la productivité, toujours plus de productivité, etc. Là, ici, ce qui devient crucial, c'est plus la production, c'est tout ce qui relève du service, la maintenance. Ça, c'est un aspect crucial, la maintenance, qui va devenir de plus en plus important. Au fur et à mesure qu'on a des grandes infrastructures qui vieillissent, la maintenance devient... Et puis, surtout quand on veut avoir du cradle to cradle, ce qui devient crucial, c'est l'optimisation de tout, maintenance, réparation, etc., etc. Et donc, ça veut dire que ce qui devient crucial, c'est... La production ne devient plus qu'un input, mais ce n'est plus le centre, ce n'est plus le centre de gravité. La production neuve, entre guillemets, devient un input dans un cycle où ce qui est tout aussi crucial, c'est la recherche et développement, le design, la réutilisation, la logistique, l'entretien, la maintenance, etc. etc. Et ça, ce qui est intéressant, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est des activités qui ne se délocalisent pas.
C'est le principe du cloud dans l'informatique. Hein.
Voilà.
On partage la même application en plusieurs.
Alors, ça, ça peut être un désastre.
Oui, ça aussi arrive à une société nomade. N'oubliez pas, c'est un retour, c'est l'abandon de la propriété qui existe depuis la première société agricole avec toute l'organisation qui est derrière.
Ouais. Mais c'est pas l'abandon de la propriété.
La maison peut être aussi utilisée comme la même. Oui. C'est-à-dire qu'il faut concevoir les maisons, pas pour un propriétaire, mais pour quelqu'un qui va y vivre. Bon, on peut dépasser comme ça, mais donc c'est un changement beaucoup plus profond que s'arrêter simplement à la production.
Oui, je suis d'accord. Cela dit, ça ne supprime pas la propriété, ça change le pattern de propriété.
Oui, mais à partir du moment où n'importe quel l'utilisateur de la maison n'est plus nécessairement propriétaire, et donc à partir de ce moment-là, vous avez une société qui dépasse. C'est la même chose pour les gens qui cueillaient des fruits.
Bon, cela dit, comme vous le savez, il y a aussi les propriétaires puis ceux qui pensent être propriétaires. La plupart des gens qui pensent être propriétaires de la maison savent bien que c'est la banque, avec le prêt hypothécaire qui est propriétaire. Donc, enfin, il y a des questions de perception, c'est ça que je veux dire. Mais je suis tout à fait d'accord. Ouais.
Qu'en est-il aujourd'hui de l'obsolescence programmée
?
Est-ce qu'on est dans quel type d'industrie cela existe-t-il encore ?
C'est vraiment intéressant l'histoire de l'obsolescence programmée. En fait, au départ, c'est même une technique d'optimisation d'ingénierie. Précisément, enfin, c'est une des stratégies pour capter la valeur. C'est même mathématisé, enfin, c'est assez longtemps que ça existe. Alors, il est clair qu'on aurait plutôt tendance, dans des approches comme celle de l'écologie industrielle, de faire plutôt l'inverse, de précisément de faire de la durabilité programmée. Ici, la durabilité au sens premier, donc que les objets durent plus longtemps avec un optimum. C'est-à-dire, comme la technologie évolue, il y a un moment donné où c'est plus raisonnable d'avoir le même objet, il faut autant changer. Oui. Alors là, j'ai l'impression qu'on va se heurter à... Enfin, j'ai l'impression que ça ne va pas forcément se passer de manière très, très harmonieuse. Parce qu'on est en confrontation directe avec des habitudes, des intérêts, qui fait qu'on a... Mais de nouveau, l'obsolescence programmée, elle est quand même directement liée au fait qu'on aime vendre des produits, c'est-à-dire... Les gens gagnent leur vie en vendant des machins, des objets. À partir du moment où vous êtes dans un modèle où c'est moins crucial de vendre la matière, vous n'avez plus besoin d'avoir de l'obsolescence programmée. Ce n'est plus une nécessité. Vous ne captez plus de la valeur comme ça. Vous captez de la valeur en conservant des clients satisfaits, des consommateurs satisfaits. Mais il n'empêche que l'obsolescence programmée, elle a manifestement des beaux jours devant elle encore. Enfin, elle est tellement évidente dans toute l'électronique, dans tous les objets de consommation, et c'est même bien documenté historiquement, hein, avec le fameux cartel Phoebus qui était basé à Genève du reste, hein, où on a remis les ingénieurs au travail dans les années 20 pour qu'ils redesignent les ampoules électriques qui avant avaient une durée de vie extrêmement longue, et on les a obligés à redesigner les ampoules électriques pour qu'elles ne durent plus que 1000 heures. Puis après ça, on vient nous dire que heureusement qu'on a des nouvelles ampoules, ceci, cela, alors que les anciennes ne duraient pas longtemps. Oui, elles ne duraient pas longtemps parce que... Alors, vous pouvez aller sur le site du Centennial Bulb, c'est toujours amusant. C'est cette fameuse ampoule dans la caserne des pompiers de Livermore, près de San Francisco, qui brûle non-stop depuis 1901. Voilà.
C'est quoi le site,
Centennial, donc centenaire, en anglais, Centennial Bulb. Et vous avez des webcams, vous pouvez voir. C'est au mois de juin l'année dernière. Non, cette année, au mois de juin, ils ont fêté le 110e anniversaire de l'ampoule.
Et qui a intégré le prix de la valeur résiduelle maintenant chez les fabricants, disant voilà, aujourd'hui un produit, l'obsolescence dans 10 ans. Et qu'est-ce que le coût matériel, le coût personnel pour refaire ce produit, qu'est-ce que ça coûtera finalement?
Oui, ça, non. Il y avait eu quand même, ce qui est intéressant, c'est de voir les changements alors de perspective. Dans les années, début des années 30, il y avait une proposition aux États-Unis de loi qui rendait obligatoire l'obsolescence comme stratégie de relance de la sortie de la crise économique. C'est un document fabuleux, il faut lire aujourd'hui. Je peux vous l'envoyer si vous voulez, vous le trouvez même assez facilement. il y avait eu une proposition tout à fait officielle de rendre obligatoire l'obsolescence pour relancer la machine économique. Aux États-Unis.
En même temps, je disais tout récemment que 80% des ISM qui ne sont plus utilisés, qui sont retournés vers les sociétés aujourd'hui qui s'occupent du recyclage, sont encore en parfait état de marche.
Oui.
Donc il n'y a pas besoin de programmer une obsolescence technique parce que ça ne fonctionne plus comme c'était peut-être le cas dans les lectures de CD. Tout le monde a connu qu'après un certain temps, ça a pu lire. Simplement, que le rythme de l'évolution technologique, de l'innovation est tel que.
Il y a différentes formes d'obsolescence. Celle qu'on préfère, c'est justement l'obsolescence qui touche au goût, à la mode, au style, c'est-à-dire où en fait techniquement l'objet est encore très valable, mais simplement les gens ont envie de changer. Donc on les a conditionnés pour ça.
Ouais. Et c'est pour travailler dans la distribution, on finit par gérer les rayons de IFI comme les rayons de produits frais. C'est-à-dire qu'on avait la même technique tout un moment où je disais, non, pas du tout, mais quand tu as des appareils IFI, que ce soit des TV, des écrans et tout, qui ont 6 mois, tu peux être sûr que tu peux les décoter parce qu'il n'y a plus moyen de les vendre. C'est comme si c'était des fruits à moitié déjà un peu passés.
Ouais.
Donc quand on a une obligation, et qui n'est pas parce que l'appareil ne marche pas, il y a déjà qu'un TV depuis 20 ans, etc.
Vous laissez les fruits chez vous?
je ne sais pas ici, mais il y a tout récemment, il y a une société qui s'est créée à Bâle, où simplement ils louent les ordinateurs. Donc les gens ne sont plus propriétaires de l'ordinateur. Ils payent 10 euros par mois, ce qui est encore abordable. Et toute la maintenance, tout se fait à distance. Mais en 3 mois, il avait 20 000 clients.
Oui, mais c'est aussi une question de temps, parce que quand on regarde à Londres, on avait regardé ça à l'époque, il y avait une chaîne de magasins qui louait les TV, qui était vraiment une chaîne de magasins qui louait les TV, et ils se sont cassés la gueule. Parce que les gens voulaient avoir leur TV, puisque c'est une question de statut, et je ne sais pas quoi. Alors peut-être que là, ils étaient trop tôt, et que maintenant, ils ont pas changé. Et du coup, j'ai une question pour vous, mais est-ce que, à vous écouter, moi, en fait, il y a quelque chose que j'ai retenu ce soir, en dehors d'autres choses, évidemment, mais une chose qui me paraissait importante, c'est que, est-ce qu'on peut encore parler d'écologie mondiale? Est-ce qu'on peut encore parler de généralité au niveau mondial? Parce que vous avez tout situé, ou vous avez dit, en tout cas, l'erreur qu'on faisait, c'est peut-être d'avoir cette généralité par rapport à resituer tout sur le temps et le lieu. Parce que même quand on parlait du BNP, du Bhoutan, j'ai lu un article, je ne sais pas si c'est vrai, donc je le prends avec des pincettes, en disant, oui, on calcule le BNP, donc le bonheur national brut, pour les gens qui sont nationalité Bhoutan.
Ouais.
Mais il y a une multitude de gens qui vivent au Bhoutan et qui font toutes les tâches...
touristiques.
Oui, enfin les tâches qui sont peut-être non
subalternes,
et qui ne sont peut-être pas en fait d'autres personnes et qui ne sont pas du tout dans le BNP. Et non, d'ailleurs, ils ne sont d'ailleurs pas compris, ni voilà. Donc, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est de dire qu'il faut toujours resituer dans le temps et dans le lieu, ou dans l'espace, la notion d'écologie, ou la notion... donc, est-ce qu'on peut encore parler d'une écologie mondiale pour tout le monde?
Oui, enfin, c'est ce que j'essaie de montrer, c'est si on ramène l'économie dans sa... Donc, si on la réincarne, en fait, si on la réincarne dans sa réalité écosystémique, on est obligé d'être beaucoup plus spécifique. Voilà. Mais pour certains aspects, il y a certains processus qui sont intrinsèquement globaux. Il est clair que le climat, c'est en tant que processus, il est global, mais en revanche, il se traduit de manière extrêmement différente, à une échelle même mésoscopique ou microscopique. Donc,
les solutions ou les pistes de solutions sont tout à fait différentes d'un état à l'autre. Comme vous disiez, le Canada pourrait utiliser son eau, ils ont peut-être un peu plus d'énergie.
Oui,
dans le désert, c'est autre chose.
Voilà.
Et donc, quand on dit non, il faut que vous économisiez l'eau, est-ce qu'on n'est pas avec des grands claims écologistes mondiaux qui en fait n'ont pas de sens?
Oui, bah, tout à fait. Ben là, je viens de soutenir une thèse où elle a étudié très très près la question de l'eau, dans le cas particulier de la gestion de l'eau en Syrie, etc., où vraiment elle arrive à la conclusion que la crise mondiale de l'eau est un artefact institutionnel. C'est-à-dire que, en fait, c'est difficile de parler véritablement, c'est pas documenté. Il y a des crises locales, régionales, mais Je crois que ça répond à ça.
Oui, c'est exactement ça. Il y a c'est une crise. On dit qu'il faut arrêter d'utiliser sa douche.
En revanche, on comprend bien qu'il y a des grands intérêts économiques à accréditer l'idée qu'il existe une crise mondiale de l'eau avec une urgence à privatiser l'eau et à la faire payer cher. Mmh. Donc pour ça, c'est utile d'avoir un discours qui, de type menaçant, globalisant, qui dit qu'il y a une crise mondiale de l'eau. Je n'ai pas tellement le sentiment qu'il y a une crise mondiale de l'eau. Il y a des crises régionales, c'est évident. Mais il y a d'autres régions où il y a la Suisse sur l'eau, pas de problème. On consomme encore beaucoup plus. En plus, on la transforme en électricité, on la vend à prix d'or à tout le monde.
On va devoir clôturer. Voilà. Peut-être on va vous laisser à tous les deux un bref mot de la fin. Peut-être, Chouren, moi, j'aurais une question plus philosophique. Tu es revenu souvent sur l'idée qu'il fallait approcher tout cela sans a priori idéologique. Mm-hmm. Tout à fait. Mais en même temps, c'est qu'on n'est jamais totalement libre d'idéologie et que celle dont on est le plus les esclaves, c'est celle dont on croit qu'on est libéré. Ah, donc, la question, c'est quelle est celle qui se cache derrière l'écologie industrielle, selon toi? S'il y en a une, quelle idéologie y aurait-il éventuellement?
Ah, mais ce que je trouve intéressant, j'ai essayé de le souligner un moment, c'est qu'en fait, elle garde quand même cette tension liée à cette apparente contradiction dans les termes, c'est-à-dire qu'il y a les deux. Il y a une certaine idéologie de l'efficacité, celle de tout le monde, de ce qu'on appelle la technocratie, mais dans un sens positif. Hein. Mm-hmm. J'appelle la technocratie, c'est un mouvement très très populaire aux États-Unis. En gros, c'était l'idée de dire on a des moyens techniques et on va résoudre les problèmes. Il y a un imaginaire de ce type-là qu'il ne faut pas sous-estimer, mais il est contrebalancé en même temps par l'imaginaire écologique, plus féminin, si je puis dire, ou beaucoup plus, beaucoup moins agressif. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a pas un, il y a ces deux qui sont en interaction.
C'est du yin et du yang.
Voilà, un peu du yin et du yang. Voilà. Mais en fait, alors, ce que je voulais dire, moi, je voulais remercier encore pour l'invitation. Puis je n'avais pas du tout imaginé que c'était le format de cette rencontre, mais j'ai trouvé très, très agréable ce format avec conférence, discussion, repas convivial. Enfin, merci.
Merci beaucoup.
Très, très bonne idée.
Baudouin, la rentrée, c'est vraiment, vraiment
bien. Pour terminer sur une note en rien plus pessimiste, moi, je ne suis pas très optimiste pour une raison à laquelle j'ai déjà fait allusion, c'est que l'initiative, elle est au niveau du pouvoir économique. Et historiquement, le pouvoir économique n'a jamais été en pointe dans le changement. Donc, c'est vraiment au point où nous en sommes actuellement, ce sont les pouvoirs publics qui doivent prendre l'initiative et s'imposer. Or, je pense qu'ils sont, pour 36 raisons, trop proches du pouvoir économique et financier. Donc, je ne suis pas très optimiste quant au rythme du changement. J'espère me tromper.
On espère tous alors.
Bon, ben, on
va avoir toute une année pour essayer d'aller plus loin. Donc, rendez-vous le 22 novembre. Ce ne sera pas ici. Mais ce sera justement Baudouin, ce sera la Ligue des optimistes. Et on parlera d'économie de fonctionnalité, ou plutôt de Project Service Systems, avec Bernard Perret et avec Christophe Sambas. Voilà. Donc à très bientôt. Et merci à tous.